السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، on a rappelé la semaine dernière les grandes étapes de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la hijra jusque les prémices de la bataille de Badr. Et la semaine d'avant, on a rappelé les grands événements de sa naissance à l'émigration. On avait déjà expliqué que la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa vie en tout cas, si on peut la découper en grandes parties, on la découperait, on la subdiviserait en trois grandes parties. De sa naissance à la révélation, puisque c'est toute la période des 40 premières années de sa vie où il n'est pas prophète. Ensuite, de ses 40 à ses 53 ans, c'est toute la période mécoise où il vit à la Mecque, où il fait da'wah. Et ensuite, de ses 53 à 63 ans, là où il est, c'est la période de médinoise, où il est accueilli à Médine et qu'il devient chef d'État. Ala kulli hal, nous sommes dans cette troisième période. Et nous sommes arrêtés juste avant la pause estivale à la bataille de Uhud. Donc on va rappeler aujourd'hui simplement les grands événements. Il nous reste ça à rappeler pour réviser ce qu'on avait fait, les grands événements de la bataille de Badr à la bataille de Uhud, puisque nous on s'est arrêté à la bataille de Uhud. Je rappelle que les grands événements qu'on a vus la semaine dernière, qui se sont déroulés entre la première et la deuxième année de l'Hégire, c'était une série d'expéditions. C'est les premières expéditions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyées ou auxquelles il a participé. Il y avait d'abord l'expédition de Sif al-Bahr, où il a envoyé Hamza ibn Abdel Muttalib avec un groupe d'hommes. Ensuite, il y avait Sariyat al-Rabigh, où il a envoyé à la tête de cette expédition Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib. Ensuite, il y avait Sariyatu al-Kharrar, où il a envoyé Sa'd ibn Abi Waqqas avec un groupe d'hommes et de combattants. Ensuite, il y a Ghazwatu al-Abwa wad-Dan. En arabe, Ghazwa et Sariyah, ça veut dire la même chose. Ça veut dire expédition, bataille. Même si les historiens, ils font une distinction entre le terme Sariyah et Ghazwa. Les historiens, en particulier les historiens qui se sont attardés sur la vie du professeur Salim, ils font une distinction entre le terme arabe Sariyah et Ghazwa. En vérité, on a trois termes qui peuvent désigner une bataille. Il y a le Ma'raka. Le Ma'raka, c'est vraiment qu'il y a deux armées qui se sont affrontées. Il y a vraiment eu des combats. C'est ce qu'on peut appeler le Ma'raka. Oui. Ensuite, il y a Sariyah et il y a Al-Ghazwa. Les deux veulent dire expédition en bataille. Ce n'est pas une erreur que de les utiliser tous les deux pour expédition en bataille. Sauf que, comme j'ai dit, les historiens spécialisés dans la vie du professeur Hassan, ils font une distinction entre les deux lorsqu'ils parlent de la vie du professeur Hassan. C'est qu'ils disent As-Sariya, son pluriel c'est Saraya, et ils l'utilisent pour parler des expéditions où le professeur Hassan n'est pas sorti, il a envoyé ses compagnons et lui il n'y a pas participé. Ça, c'est ce qu'on appelle Sariya. Et le Ghazwa, c'est là où le professeur Salam est sorti, il a participé, même s'il n'y a pas forcément eu de combat. À partir du moment où le professeur Salam est sorti avec une armée, parce qu'on a vu qu'il y a eu plein d'expéditions comme ça, où le professeur Salam est sorti avec une armée, et finalement, il n'a rien intercepté, il n'y a pas eu de combat, il n'a rencontré personne. On l'appelle comment ? On l'appelle Ghazwa, parce que le professeur Salam est sorti, il était présent. Et on appelle Sariya toute expédition où ce sont les compagnons qui sont sortis. Non. Ala kulli hal, comme j'ai dit, ce n'est pas forcément une erreur linguistique que d'utiliser le terme pour l'un et l'autre pour les deux, etc. Ala kulli hal. Donc on a dit après la bataille de Bouat, Ghazwatou, il y a eu Ghazwatou al-Abwa qu'on appelle aussi Ghazwatou al-Waddan. C'est la première bataille où le professeur Hassan, ou la première expédition où le professeur Hassan est sorti. Et il est revenu avec le pacte qu'il a conclu avec les Bani Damra. Ensuite, il y a eu Ghazwatou Bouat. Et celle-là aussi, on l'a appelée Ghazwa parce que le professeur Hassan est sorti. Et ici, il a raté la caravane, il n'a pas intercepté la caravane. Ensuite, il y a eu Ghazwatou al-Ushayra. Ghazwatou al-Ushayra, où le professeur Hassim a conclu un pacte pendant cette ghazwa, pendant cette expédition, le professeur Hassim a conclu un pacte avec la tribu des Bani Moudlij. Et il était sorti dans cette expédition pour essayer d'intercepter la caravane d'Abu Soufiane, qui va plus tard être la cause de la bataille de Badr à son retour, mais il la rate à ce moment-là. On l'a appelé l'expédition de l'Ushayra. Ensuite, il y a l'expédition de Safwan, où certains l'ont appelé Badr l'Oula, la première Badr. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est déroulée à Badr. C'est lorsque un idolâtre, Kurz ibn Jabr al-Fihri, est venu et qu'il a attaqué Médine, ou plutôt des enclos de Médine de nuit, et ensuite il s'est enfui. Le professeur Sim a tenté de le rattraper avec un groupe, mais ils ne l'ont pas rattrapé. Ils ont été jusqu'à Badr pour essayer de le rattraper, ils ne l'ont pas rattrapé. C'est pour ça qu'on appelle ça la bataille de Badr l'Oula, la première Badr, parce que le professeur Hassan a été jusqu'à Badr à cette occasion. Ensuite, la huitième et dernière expédition avant la bataille de Badr, c'était l'expédition de Nakhla, où le professeur Hassan a simplement envoyé une douzaine d'hommes dans la route commerciale du sud de la Mecque, simplement pour amener des informations, pour faire les éclaireurs. Mais finalement, ils vont prendre l'initiative de livrer bataille contre une caravane qui est très mal gardée, puisqu'elle vient du sud, elle vient du Yémen. Donc les Mecquois ne s'imaginent pas qu'à ce moment-là que les Médinois pourraient traverser tout le désert jusqu'à Mecca et contourner Mecca et aller vers le sud, parce qu'ils se priveraient de leurs arrières s'ils laissent derrière eux Mecca. Et pourtant, les compagnons vont oser, à un tel point où il va y avoir des combats, et finalement ils vont prendre la caravane, ils vont faire un mort côté idolâtre, deux prisonniers. Ensuite, on ne revient pas sur les détails, on les a déjà vus. Al-Muhim, un des deux prisonniers finira par se convertir à l'islam, alors que sa libération a été rançonnée, mais il refusera de partir, il va se convertir à l'islam. Et ensuite, juste avant la bataille de Badr, après cette ghazwa, après cette expédition, il y a eu le changement de la qibla. Je ne sais plus si on l'a rappelé la semaine dernière, en tout cas il y a eu le changement de la qibla. Et il y a eu la prescription du jeûne de Ramadan. Et en même temps que la prescription du jeûne de Ramadan, la prescription de Zakat al-Fitr. C'est à ce moment-là que ça arrivait. La deuxième année de l'Hégire, juste avant la bataille de Badr. Et la bataille de Badr se déroule pendant le mois de Ramadan de la deuxième année de l'Hégire. Comme vous le savez, à la base, le prophète Hassim est sorti avec 300 et quelques hommes pour intercepter la caravane d'Abu Soufiane qui revient du Cham. Pendant ce temps-là, alors qu'il va pour essayer d'intercepter, il y a sa tante paternelle, Atika, bintou Abdel Muttalib, qui vit à la Mecque, qui fait un rêve. On avait expliqué, je ne vais pas revenir sur les détails de ce rêve, c'est un rêve prémonitoire qui indique que la ville de la Mecque va être touchée par une dure épreuve, puisqu'elle voit dans son rêve un rocher qui va débouler sur la ville de la Mecque et qui va fracasser chaque demeure de la Mecque. Et en fait, ça indique que chaque famille de la Mecque va perdre quelqu'un à la bataille de Badr. Alors, kulli hal, Abu Sufyan, ses informateurs lui disent qu'une armée de 300 et quelques hommes sont sortis pour l'intercepter. Donc il envoie un message urgent. Il envoie le messager Damdam ibn Amr al-Rifari pour informer la Mecque. Damdam ibn Amr al-Rifari le fait. Il va à la Mecque, il informe. On avait expliqué aussi dans quelle extravagance il va informer la ville de la Mecque. Et donc Abu Jahl décrète la mobilisation générale et ils vont sortir avec 1300 hommes. Sauf que pendant ce temps-là, Abu Sufyan a quand même pris ses précautions. Il détourne sa caravane au lieu de passer par Badr, puisqu'il comprend que le professeur Hassan va essayer de l'intercepter à Badr. Il contourne les puits de Badr et il arrive à passer au sud avant que le professeur Hassan n'arrive à lui couper la route du côté de Badr. Donc quand il sait que la caravane est sauvée, il envoie un message à l'armée idolâtre qui est en chemin pour leur dire, voilà, vous étiez déplacés en urgence, mais là il n'y a plus lieu, j'ai sauvé la caravane, retourne à la Mecque. Si on veut faire une bataille, il faut la préparer. Mais il va y avoir une dissension entre eux. Certains vont dire rentrons, d'autres vont dire non, maintenant qu'on est parti, continuons. Et achevons-les, de toute façon on est plus nombreux. Et la dissension, elle sera en particulier entre Abu Jahl et Al-Akhnas ibn Shurayq, le chef des Bani Zuhra. Et finalement, Al-Akhnas ibn Shurayq, lui, va décréter qu'il retourne. Il va demander à sa tribu, les Bani Zuhra, de le suivre. Et les gens de toutes les autres tribus qui ne sont pas convaincus par cette guerre, puisque maintenant la caravane est sauvée, il va demander de les suivre. Il va réussir à convaincre 300 hommes de retourner à la Mecque. Donc l'armée des idolâtres se retrouve diminuée de 300 hommes. Mais ça fait quand même un millier d'hommes contre 300 et quelques compagnons de l'autre côté. Et lorsqu'ils se retrouvent à Badr, les idolâtres ne comprennent pas. Ils sont dans la plaine de Badr. Le professeur Hassan s'est installé, il est arrivé avant. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les musulmans sont là en train de les atteindre. Sinon on était à leur place. On est trois fois moins nombreux. On entend qu'une armée de mille et quelques hommes, ils arrivent, soit on demande des renforts, soit on s'enfuit à Médine. Mais eux, ils sont là, ils les attendent. Prêts à livrer le combat, ou plutôt prêts à mourir. Donc, ils demandent à un expert militaire, Umayr ibn Wahb al-Jumahi, c'est un de leurs experts militaires, de faire un tour pour les compter, pour dire à peu près combien ils sont. Et donc, il fait le tour avec son cheval. Il contourne toute l'armée des musulmans et il revient, il dit ils sont à peu près 300 hommes. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. C'est un chiffre approximatif, mais il est en plein dans le vrai. Il connaît son art, il sait comment faire, il est pour à peu près compter. Et il revient, il dit mais laissez-moi quand même vérifier autre chose. Et il va sortir de la plaine de Badr pour aller vérifier s'il n'y a pas des pièges ou des embuscades, parce que lui aussi, il ne comprend pas. Il voit qu'il y a trois fois moins d'hommes, et pourtant, ils sont là, ils attendent. Il se dit, si j'étais à leur place, c'est un expert militaire. Je ne serais pas aussi confiant qu'eux, sauf si je sais qu'il y a quelque chose d'autre que je leur prépare, une surprise. Donc, il va voir s'il n'y a pas des pièges, des embuscades, des traces, autres que leurs traces à eux. Et il revient, il dit, écoutez, ils ne sont pas plus que ce que je vous ai dit. Il n'y a aucun piège de préparer, aucune embuscade. Mais ce que j'ai vu, je vous le dis, j'ai vu les chamelles de Médine que vous voyez devant vous. Mais je les vois, elles sont venues en transportant sur elles, sur leur dos, la mort. La mort sûre et certaine. Comment ça, elles transportent la mort sûre et certaine? Eh bien oui, ils sont venus, ils sont là, ils sont confiants parce qu'ils savent qu'ils vont mourir. Et la mort ne les fait pas peur. Donc ils sont venus, les chamelles à transporter la mort. Mais méfiez-vous, parce que si ces gens-là sont prêts à mourir, ça veut dire qu'ils sont 300.
ils ne mourront qu'après au minimum avoir au moins tué l'un d'entre nous. Et ensuite, peut-être qu'un autre pourra le tuer. Mais ils feront tout pour en tuer au moins un d'entre nous. Ça veut dire que même si nous gagnons cette bataille et que nous les décimons, il faut avoir à l'esprit que nous rentrerons peut-être victorieux à la Mecque. Il était loin de savoir ce qui allait se passer. Nous rentrerons peut-être victorieux, mais avec 300 morts, 300 deuils, 300 malheurs et mauvaises nouvelles à transmettre à la ville de la Mecque. Donc à vous de voir. Et là, Utba ibn Rabi'a va essayer de convaincre l'armée qu'il n'y a plus lieu de combattre. Et Abu Jahl, entêté dans sa volonté de livrer le combat, va s'interposer. Et comme il voit que Utba ibn Rabi'a commence à réussir à convaincre les gens, il va faire appel à qui ? À le frère de l'Hadrami, Akhul Hadrami. C'est qui le frère de l'Hadrami ? Eh bien, pendant la dernière expédition où il y a eu un mort idolâtre, c'est un Hadrami. Et on a dépêché dans l'armée la famille de l'Hadrami, les frères de l'Hadrami. Et donc, Abu Jahl appelle un des frères de l'Hadrami, lui dit, on est venu ici pour venger la mort de ton frère. Eh bien, sache, regarde ce que Utba il fait. Il veut repartir sans laver l'honneur de ta famille. Et donc là, le frère de l'Hadrami, hein, il va, comme on l'avait expliqué, mais c'est le jahiliya. Il va enlever son vêtement pour montrer son postérieur alors qu'il est sur sa monture. Et hurler, « Wa Amra, ô mon Amr !» Puisque son frère qui a été tué, Anakhla, il s'appelait Amr. C'est une drôle de tradition, un drôle d'usage, mais c'est un usage de la jahiliya. Que eux comprennent. Il y en a la honte pour vous si vous ne vengez pas mon frère. C'est que vous avez tout laissé tomber, yani, même les vêtements. C'est ça, yani, la symbolique. Comme on dit nous vulgairement, comme on entend vulgairement, il a baissé son froc ou dans certaines situations. Et bien, c'est ça. Et donc, il va réussir juste avec ce geste et avec ce cri, ce hurlement, à galvaniser l'armée. À un tel point que même Utba, qui était en train d'essayer de convaincre les gens, il va dire, vous voulez dire que moi je suis lâche ? Eh bien je vais vous montrer moi qui est lâche. Et donc à ce moment-là, il va s'avancer, il va défier les musulmans en duel. Donc il y aura les duels, et on avait expliqué, on va pas revenir sur les détails, que les musulmans avaient triomphé dans les duels. Ensuite, il va y avoir l'attaque générale entre les deux armées. Et ça va être une défaite cuisante pour les idolâtres. À un tel point qu'ils vont perdre dans cette bataille tous les notables, les plus connus, qui se sont déplacés, ils meurent dans cette bataille. Le seul qui reste vivant, c'est celui qui n'est pas venu, c'est Abu Lahab, l'oncle du professeur Asselin. Mais il mourra quand même quelques jours plus tard d'une maladie. Et après la bataille, les survivants idolâtres rentrent dans la débandade, chacun dans son coin, sauf qui peut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, après la bataille, il enterre d'abord les martyrs, ils sont 14, et ensuite il s'occupe également des corps des idolâtres. Il ne les laisse pas au milieu du désert, il ne les mutile pas, comme malheureusement ce sera fait, comme on le verra plus tard, pendant la bataille de Uhud, par les idolâtres. Il enterre, même si c'est une fosse commune, il donne une sépulture aux idolâtres. Sauf pour Umayya ibn Khalaf. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils viennent pour prendre son corps, on est au milieu du désert. Il fait très chaud. Il n'y a pas de morgue. Donc, en quelques heures, la décomposition elle commence du corps. Et en fonction aussi des corps, les corps sont différents. Un corps peut décomposer plus vite qu'un autre. Son corps commence à tomber, des bouts de chair commencent à tomber en lambeaux. Et donc, comme il voit que son corps est dans cet état-là, le fait de transporter le corps jusqu'à la fosse commune, ça va le détériorer. Donc, ils disent au professeur, voilà dans quel état il est son corps, qu'est-ce qu'on fait ? On le laisse ? Parce que si on le touche, ça va être pire pour son corps. Le professeur Samy a dit, non, ne le laissez pas comme ça. Mais en effet, si vous le transportez, ça va détériorer le corps. Donc il leur demande de l'enterrer sur place. Essayer de creuser en dessous du corps, de lui faire un trou et de mettre de la terre dessus. Alash, il y en a la dignité d'une dépouille, quelle qu'elle soit, même ton pire ennemi, c'est qu'il soit enterré. Comme dans l'histoire, dans surat Ma'ida, de Habil et Qabil, les deux fils d'Adam, lorsque l'un a tué l'autre, et que finalement il s'est mis à regretter quand il a vu ce qu'il avait fait, qu'il a vu le corps de son frère, et c'est le premier mort humain sur terre. Donc il ne sait pas quoi faire. Et Allah Azza wa Jalla lui envoie deux oiseaux, des corbeaux. L'un enterre l'autre pour lui montrer ce qu'il faut faire. قال يا ويلتا عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. Il a dit, oh malheur à moi, suis-je impuissant au point de ne pas être capable d'enterrer, de faire comme ce corbeau et d'enterrer mon frère? Et ici, si on traduit littéralement, le verbe wara, c'est cacher, mettre derrière quelque chose. D'ailleurs, en dirigeant, on reprend ça. Murak. En arabe, on dit wara'ahu, derrière lui. Le verbe wara, c'est le fait de cacher en se mettant derrière. Même ça peut être utilisé de manière générale par cacher maintenant, ou enterrer. À la base, ça veut dire ça, se mettre derrière, se cacher en se mettant derrière quelque chose ou quelqu'un. Et lui, il dit, suis-je impuissant à un tel point que je ne puisse pas mettre derrière, cacher, sawa'ata, akhi. Sawa, c'est l'intimité. Et on l'utilise aussi, sawa, pour les parties intimes. Par exemple, quand on dit sawa'atan, sawa'atan, c'est le duel, c'est les deux sawa, ça veut dire les deux parties intimes. Donc en arabe, on utilise le terme sawa pour la partie intime. C'est-à-dire que le mort, c'est quelque chose d'intime. Tout son corps devient intime. Et c'est pour ça que celui qui lave le mort doit être très vigilant. Celui qui manipule un mort, il doit être très vigilant aussi. Tout son corps doit être respecté. Alash, c'est quoi la hikma? Parce que quelqu'un qui est vivant, il gère son corps. Il est vivant, il fait ce qu'il veut. Entre guillemets, il s'habille comme il veut. Il cache les parties de son corps qu'il veut, il montre celles qu'il veut. Il est majeur, vacciné, libre, vivant, doué de raison, il fait ce qu'il veut. Non. Un mort, il ne peut plus gérer son corps. Ce sont ceux qui l'entourent qui le gèrent. Et donc, par respect le plus extrême pour lui, on considère que tout son corps, entre guillemets, est une intimité. On ne va pas le dévoiler n'importe comment, à n'importe qui, au grand jour, etc. On fait attention. Et c'est pour ça qu'il utilise ce terme. Suis-je incapable de faire comme ce corbeau et de cacher l'intimité de mon frère? Non seulement je l'ai tué, et en plus, je n'ai même pas été au rendez-vous pour lui donner une sépulture digne. Comme le prophète Hassan disait, « Ikramul mayyiti dafnuhu ». Honorer le mort, c'est l'enterrer. C'est quoi honorer un mort? C'est l'enterrer. Et donc si son honneur c'est d'être enterré, d'être caché dans la terre, dans la poussière, si c'est vraiment ça son honneur, c'est pour ça que l'islam nous demande aussi de le faire au plus vite. On voit la différence de culture. Chez les musulmans, dès qu'on peut, il doit être enterré. Et nous, on considère qu'avec les formalités qu'on doit remplir à notre époque et dans nos sociétés modernes, on considère que même si on a dû attendre après le décès 3 jours, 4 jours, 5 jours, quelquefois ça va même bien plus longtemps, on considère que c'est trop. Dans les pays musulmans, quelqu'un meurt le matin, le soir il est enterré. Avant l'arrivée du soir, il est enterré. Les rares fois où on laissera passer la nuit, c'est parce qu'il est mort en fin de journée qu'on n'a pas pu l'enterrer. Sinon, Dans les 24 heures, Al-Muhim, il est enterré. Sauf cas exceptionnel, si il doit y avoir une enquête ou des choses comme ça. Mais sinon, dans les 24 heures, il est enterré. À un tel point que la plupart du temps, ça ne passe même pas par un salon funéraire ou une morgue, il n'y a pas besoin. Pourquoi ? Parce que honorer le mort, c'est l'enterrer. À l'inverse, dans les sociétés occidentales, le mort, on veut le garder le plus longtemps possible. Et donc, à partir du moment où il est mort, quelquefois ça peut durer une semaine, 10 jours, 15 jours avant l'enterrement. Et là, on veut le garder. On va d'abord prendre le temps de faire les faire-part. Ensuite, on va prendre le temps de toute la journée de parler avec le fleuriste. Ensuite, l'autre journée, on va parler toute la journée avec le prêtre, voir comment ça va se faire à l'église, qui va s'asseoir où, parce qu'il faut faire attention à un tel, il ne doit pas s'asseoir avec un tel parce qu'il ne peut pas lui parler, donc il ne faut pas qu'il nous fasse un scandale pendant le décès, pendant le deuil, etc. Al-Muhim. Et on a besoin d'aller voir le mort le plus souvent possible. Alors que le mort, lui, il a un seul désir, un seul besoin. En tout cas, dans notre conception à nous, les musulmans, le mort, il a un seul besoin à ce moment-là, c'est d'être enterré. L'honorer, c'est l'enterrer. Non. Et ça, en fait, n'importe qui doit se poser la question. Quand je suis mort, est-ce que je veux qu'on m'expose et que tout le monde vient, même des gens que d'habitude je n'avais pas l'habitude de voir et qui vont venir et vont me regarder. Certains vont pleurer, d'autres vont faire semblant de pleurer et en fond d'œil vont dire « Tiens, bien fait pour toi », etc. Bref. Voilà. Donc le professeur sallam enterre également les idolâtres à Babel. Et ensuite, il rentre et la question du butin, des prisonniers, va se poser sur le chemin du retour. Donc, on avait expliqué qu'il va y avoir une divergence entre les compagnons, en particulier sur les prisonniers. Est-ce qu'on les garde vivants pour négocier leur libération ? Et que même le Coran va être révélé à ce sujet. Après la bataille de Badr, la caravane d'Abu Sufyan revient à la Mecque. Les Mécois prennent la défaite, les survivants reviennent. Abu Sufyan décrète plusieurs choses. La première chose, c'est que la grande revanche doit être préparée, qu'il ne faut pas laisser passer ça, et qu'il faut préparer la revanche. Et donc la caravane commerciale qu'il a ramenée, il y a des biens, des richesses qui appartiennent à beaucoup de gens de la Mecque, qui ont mis des parts dans cette caravane, et ensuite ils récupèrent leurs bénéfices. Il exige que toute la caravane soit mise de côté pour qu'elle soit utilisée dans les dépenses qui devront servir à la revanche contre les musulmans et contre la bataille de Badr. Donc ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, les Arabes aimaient se lamenter, faire des poèmes quand ils pleuraient pour le décès de quelqu'un, faire des processions ici, dans les rues. Des processions, des genres de mini-manifestations où il criait, il se lamentait pour le mort en faisant ses éloges. Et quelqu'un qui ne savait pas très bien pleurer sincèrement, il payait des pleureuses ou des pleureurs, c'était des gens, c'était leur métier. On les payait pour ça. T'inquiète pas, je vais bien pleurer pour ton mort. Et je vais bien faire ses éloges. Non. Donc, et ça, c'est important dans la culture arabe de la Jahiliya. Honorer leur mort, c'était de le faire de cette manière. Se griffer, s'arracher les vêtements, etc. Et Abu Sufyan va interdire la lamentation. Parce que pour les Arabes, la lamentation, se lamenter, faire les poèmes pour le mort, et ses éloges, et faire les processions, ça permettait pour eux de faire quoi ? C'était leur façon de faire leur deuil. Ils faisaient ça pour pouvoir passer à autre chose. Chacun, quand il est touché par la mort d'un être proche, il a besoin de faire son deuil. Il ne le fait jamais vraiment. Mais il a besoin de passer à autre chose. Et donc symboliquement, certaines personnes éprouvent le besoin de faire quelque chose pour pouvoir ensuite passer à autre chose et reprendre une vie à peu près normale, même si elle ne le sera jamais véritablement après la perte d'un être qui était très proche et très cher. Fa'ala kulli hal, les Arabes de la Jahiliya, ils ont besoin de ça. Et Abu Sufyan, il le sait. Et il leur dit, notre deuil ne pourra être fait qu'après qu'on ait pris notre revanche. Donc interdiction de pleurer les morts, de faire les processions, de faire la lamentation. Gardez votre haine à l'intérieur. Si vous évacuez à travers les rimes et tout ça, vous allez évacuer la haine et nous on en a besoin pour reprendre la revanche. On a besoin de la rancœur. Et donc il va interdire les lamentations. Non. Jusqu'à ce que, comme on l'avait dit, Aswad ibn Abil Aswad al-Muttalib, il va, c'est un vieil homme qui a perdu 3 de ses fils et il veut se lamenter, il veut pleurer, il veut faire les rimes. Et il entend qu'on se lamente, qu'une femme se lamente à l'extérieur. Donc il dit, enfin, la mesure qui interdit les lamentations a été levée. Et donc il demande à ce qu'on aille vérifier, est-ce que vraiment c'est le cas, on peut enfin se lamenter, parce que lui, il attendait ça depuis longtemps, pour se lamenter sur ses 3 fils qui sont morts à Badr. Et on revient, on lui dit, non, non, ça c'est une femme qui a perdu son chameau, et donc elle se lamente pour son chameau. Et lui, à ce moment-là, il va pas résister, donc il va faire des rimes pour se lamenter, en blâmant cette femme, en disant dans ses rimes, est-ce que elle est empêchée de dormir, parce que ça arrivait pendant la nuit, est-ce qu'elle est empêchée de dormir pour la mort d'une chamelle, alors que moi j'ai perdu 3 de mes fils. Al-Muhim, on avait cité cette poésie quand on était arrivé à cet événement. Et ensuite, l'autre mesure que prend Abu Soufiane, c'est l'interdiction de négocier la rançon des prisonniers. Et enfin, la dernière mesure qu'il prend, c'est qu'il s'interdit à lui, il fait le serment, pour montrer l'exemple, qu'il n'approchera aucune de ses épouses. On comprend ce qu'il veut dire à travers ça, c'est pas la proximité, juste la proximité. Qu'il n'approchera plus aucune de ses épouses tant que la revanche ne sera pas prise. Mais au bout de quelques semaines, la revanche n'est pas encore prête, et il a fait un serment, tout le monde le sait, donc ça va donner lieu à ce qu'on va appeler l'expédition de Sawit. À la Kulihal, après ça, ce qu'on peut rappeler comme grands événements qui ont eu lieu, c'est l'expédition, ou plutôt Ghazwan, l'expédition de Bani Sulaym. Quand le professeur Hassim rentre à Médine, ses informateurs, quelques jours après son arrivée à Médine, après la bataille de Badr, ses informateurs l'informent que la tribu des Bani Sulaym sont en train de préparer une armée pour l'attaquer par surprise, pour attaquer Médine par surprise. Le professeur Hassim, dès qu'il sait ça, comme ils viennent d'arriver, ils sont encore prêts, il dit à ses compagnons, allez, on y va. Ils veulent nous attaquer par surprise, eh bien surprenons-les avant qu'ils nous surprennent. Et donc ils vont sortir, et ils vont quand ils sont sur le point d'arriver, eux aussi, les Bani Sulaym, leurs informateurs les informent, et eux, ils n'ont plus le temps de tout prendre, leurs préparatifs, leurs armes et tout ça, donc ils laissent tout sur place, leur bétail et tout ce qu'ils avaient pris, leur nourriture, et ils fuient. Le professeur Salem, avec les compagnons, donc ils marquent entre guillemets le terrain, et il récupère le butin. Après la bataille de l'expédition de Bani Sulaym, le professeur Sam rentre. Et il va être ciblé par une tentative d'assassinat. Tentative d'assassinat ciblée. C'est une ruse qui a été préparée entre Safwan ibn Umayya, qui a perdu son père à Badr, et Umayr ibn Wahb al-Jumahi. Umayr ibn Wahb al-Jumahi, c'est qui ? C'est l'expert militaire là, qui a tourné autour de l'armée et tout ça à Badr. Et donc ils parlent entre eux, et Umayr ibn Wahb al-Jumahi dit, si je ne craignais pas pour mes enfants, dans le cas d'une mort certaine pour moi, si je ne craignais pas pour mes enfants et pour mes dettes, j'aurais été de ce pas maintenant tuer et éliminer physiquement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on serait débarrassé de ce problème. Safwan ibn Umayya lui dit, tu serais capable de faire ça? Il dit, oui, bien sûr. Et la seule chose qui m'empêche, c'est ma crainte pour mes enfants qui va s'en occuper après moi et mes dettes qui va les rembourser. Safwan ibn Umayya va lui dire, je te fais le serment que si tu meurs parce que tu essayes de tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que tu meurs dans ces conditions, je fais le serment que c'est moi qui m'occupe de tes enfants après toi et que je rembourse toutes tes dettes. Ma condition que tu vas le tuer. Il lui dit, j'y vais. Et il part. Et Safwan ibn Umayya dit, gardons cela secret jusqu'à ce que tu aies réussi à faire ton affaire. Et il arrive avec son épée à Médine. Et il prétend qu'il veut juste discuter avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons s'interposent parce qu'ils le voient arriver avec une épée. Donc c'est louche. Le professeur Hassan leur dit, laissez-le passer. Et quand il s'assoit, il lui dit, tu es venu pour me tuer. Donc lui, il est choqué, il se dit, comment il a pu le savoir? Je ne l'ai dit à personne. Et on a convenu avec Safwan ibn Umayya de le dire à personne. Donc il l'a dit à personne. Mais en supposant que Safwan ibn Umayya ait pu le dire à quelqu'un, ben moi, dès que j'ai pris la décision, je suis parti de Mecca. Cette personne n'a pas pu avoir d'abord l'information, ensuite se préparer au voyage et venir et arriver avant moi. Mais il me connaît. Donc il est étonné. Mais en apparence, il essaye de rien montrer. Il dit non, je suis juste venu discuter. Il dit pourtant, il y a quelques jours, tu étais assis avec Safwan ibn Umayya devant la Kaaba et vous avez discuté. Et voilà ce que tu as dit. Et voilà le serment qu'il t'a fait. Et vous vous êtes même promis de le dire à personne. Umayr ibn Wahb al-Jumahi lui dit, il n'y avait personne avec nous. Donc si tu le sais, c'est que je me suis trompé sur ton compte. Tu es vraiment envoyé par Allah. Et là, il va dire, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a aucun Dieu sauf Allah et j'atteste que toi, Muhammad, tu es le messager d'Allah. Ensuite, il va se convertir à l'islam et donc évidemment, Safwan ibn Umayya, lui, il est à la Mecque, comme il n'arrive plus à tenir, il dit aux gens, écoutez, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, mais ne vous inquiétez pas, vous allez entendre une information qui va vous venir de Médine, qui va vous rendre tellement joyeuse, qui va vous rendre tellement joyeux que vous n'aurez même plus besoin de préparer la bataille, la revanche de Badr. Et finalement, l'information qui vient, elle vient avec Umayr ibn Wahb al-Jumahi qui revient à la Mecque pour provoquer Safwan ibn Umayya, les habitants de la Mecque, et leur dire « J'avais été pour tuer le professeur Hassan, mais je suis devenu musulman. Et je suis venu vous dire que cet homme, il m'a fait vivre un miracle, le voici, etc. Donc, convertissez-vous à l'islam comme moi. » Ala kulli hal, après cet événement, il y aura l'événement de l'exil de la tribu des Bani Qaynuqa. On avait expliqué que la tribu des Bani Qaynuqa, ils ont un pacte avec le professeur Salem et finalement ils vont le rompre, ils vont faire du tort aux musulmans, ils vont humilier en public une femme musulmane en la déshabillant, ils vont même aller jusqu'à, dans une bagarre, tuer un musulman et donc ils vont ouvertement rompre le pacte de non-agression avec le professeur Salem et donc le professeur Salem va les assiéger. Et finalement, comme Abdullah ibn Ubay ibn Saloul va venir intercéder en leur faveur, parce qu'il était un de leurs alliés, le professeur Hassan va accepter une chose, c'est qu'il leur laisse la vie sauve, mais à une condition, c'est qu'ils ne vivent plus à Médine, qu'ils s'exilent. Et donc ils vont être exilés. Après l'événement des Bani Qaynuqa, il va y avoir la bataille de Sawiq, l'expédition de Sawiq. Sawiq, c'est quoi Sawiq en arabe? Ça veut dire, c'était quelque chose que les gens, les Arabes de l'époque faisaient avec des graines, al-muhim, de la farine, etc. Et c'était des formes de petites boules qui étaient nourrissantes et qui se conservaient très bien. Et ils les prenaient surtout dans leur voyage. Et donc Abu Sufyan, en fait, qui n'en peut plus de son serment qu'il a fait, parce que les semaines, elles commencent à passer, il dit à la Mecque, avant la grande revanche, je vais prendre une petite revanche pour pouvoir rompre son serment. Et donc il va jusqu'à Mecca, jusqu'à Al-Madina Afwan, et il attaque de nuit, quelques endroits par-ci et par-là, il tue quelques compagnons à la périphérie de Médine, dans des enclos qui sont gardés par ces compagnons-là, et ensuite il fuit. Et le lendemain matin, lorsqu'on se rend compte de ce qu'ils ont fait, le professeur Hassan essaie de les rattraper. Et Abu Sufyan, comme il se sait pourchasser, et qu'il a, il ne veut pas qu'on le rattrape, il laisse tomber les sacs de Sawiq. C'est pour ça qu'on appelle cette expédition l'expédition de Sawiq. Al-Muhim, le professeur Hassan ne va pas réussir à le rattraper. Abu Sufyan arrive à rentrer à la Mecque. Ensuite, il va y avoir comme événement, après cela, le mariage de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu avec la fille du professeur sallallahu alayhi wa sallam, Fatima al-Zahra radiyallahu anha. Ensuite, après ce mariage, il va y avoir l'expédition de Ghazwat Dhi Amar. Et ensuite, après Ghazwat Dhi Amar, on a l'événement de Ka'b ibn al-Ashraf qui fait beaucoup de tort aux gens de Médine et qui sera tué par le compagnon Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu. Ensuite, après cela, il y aura le mariage du compagnon Uthman ibn Affan radiyallahu anhu avec Umm Kulthum. Comme on l'avait déjà expliqué, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu était marié une première fois avec Ruqayya, la fille du professeur sallam, et elle meurt pendant la bataille de Badr. Pas à Badr, elle meurt chez elle à Médine de maladie. Et donc après cela, et ça correspond à ce moment-là dans la biographie du professeur sallam, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu se marie avec Umm Kulthum. Et ensuite, plus tard, on le verra, elle mourra elle aussi. Et le professeur sallam aura cette fameuse parole de lui dire si je devais avoir plus de filles encore, je l'aurais marié à Uthman ibn Affan. Et si je devais avoir 100 filles qui à chaque fois mourraient en se mariant avec Uthman, eh bien je continuerai à marier mes filles quand même avec Uthman ibn Affan. C'est une façon de montrer le mérite qu'a Uthman ibn Affan. C'est une éloge. Et c'est une façon aussi de contredire les superstitions de la jahiliya. Parce que la jahiliya, quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'il disait? C'est un homme qui porte malheur, il ne faut pas lui marier sa fille. Et donc le professeur Hassim, pour casser cette idée, il dit, eh bien moi, j'ai plus de filles à marier. Sinon, j'aurais marié mes filles. Et je vais même aller plus loin, si j'en avais 100 à marier, il va dire, et qu'elle devait à chaque fois mourir parce qu'elle se marie avec Uthman ibn Affan, eh bien je continuerai quand même à le laisser se marier avec mes filles. Non. Parce que si elles doivent mourir, c'est parce qu'Allah Azza wa Jalla a décidé. C'est pas la superstition, c'est pas le porte-malheur ou je ne sais quoi. Non. Ensuite, après le mariage de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu avec Umm Kulthum, il va y avoir l'expédition de Bahrain. L'expédition de Bahrain, à pas confondre avec Bahreïn, qui est un pays actuel dans le pays du Golfe. Mais Bahrain, c'est un endroit entre Medina et Mecca, plus ou moins au nord de Mecca. Le professeur Hassan va se rendre là-bas. On avait expliqué qu'il y avait plusieurs versions entre les historiens sur la raison exacte qui a poussé le professeur Hassan à sortir dans cette expédition. Certains disent pour contrer une menace, la menace d'une tribu. Certains disent pour faire acte de présence dans le désert sur la route commerciale. Certains disent pour faire da'wah, et comme c'est dans un contexte de guerrier, il est obligé de sortir avec des combattants. En tous les cas, c'est ce qu'on va appeler Razwat Vi Amar. Et pourquoi Razwa? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, quand le professeur Hassan sort directement avec les hommes, on appelle ça le Razwa. Et quand c'est juste les compagnons qui l'envoient, on appelle ça As-Sariya. Non. Et quand c'est vraiment une bataille, il y a des combats, on peut appeler ça le Ma'araka, peu importe que le professeur Hassan y ait participé ou non. Ensuite, après Bahrain, il y a l'expédition de Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu, l'ancien fils adoptif du professeur Hassan. Il envoie Zayd ibn Haritha pour contrer la caravane de Safwan ibn Umayya. Et c'est pas n'importe quelle caravane. C'est la caravane de l'été. Rihlatus Saif, comme on l'entend dans le Coran, li ilafi Quraysh, ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Pour l'habitude des Quraysh, leur habitude de faire le voyage de l'hiver et le voyage de l'été. Qui a été mis en place par qui, ces deux rihla, ces deux voyages? Ça a été mis en place par l'arrière-grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hashim ibn Abd Manaf. L'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hashim ibn Abd Manaf. Quand ils voyageaient, les Arabes, pour le commerce de la Mecque, ils voyageaient en petits groupes, la route était très dangereuse, il y avait des bandits, il y en a qui ne revenaient pas vivants, etc. On leur volait. Et donc, il a décidé d'organiser deux grands trajets. Un vers le nord, vers Shem, voyage commercial vers Shem, pendant l'été. Et un vers le sud, vers le Yémen, pendant Shita, pendant l'hiver. C'est ce qu'on a appelé « Rihlatu Shita et Wassaif ». Parce que ça permettait de faire des voyages organisés qui étaient le plus sécurisés possible. Après, pour le reste des voyages, c'était chacun, il pouvait se débrouiller comme il pouvait, faire un groupe avec des amis, etc., et faire son voyage. Mais sinon, les grands voyages connus, bien sécurisés, avec des hommes armés, etc., organisés, entre guillemets, par la tribu des Quraysh, c'était « Rihlatu Shita'i Wassaif », le voyage de l'hiver et le voyage de l'été. Naam. Et donc ça va donner Safwan ibn Umayya, il ne peut plus passer par la route habituelle parce qu'elle est à chaque fois prise d'assaut par les musulmans. Et donc il va prendre la caravane commerciale, il ne va pas l'annuler, il va la faire contourner de l'autre côté pour la faire passer presque par l'Irak. Sauf que le professeur Hassim va en être informé, puisqu'il a des informateurs dans le désert, il envoie des gens pour surveiller, il va en être informé, donc il envoie Zayd ibn Harith avec 300 hommes pour l'intercepter. Et donc comme ils seront pris par surprise, Safwan ibn Umayya et la caravane commerciale qui seront moins nombreux, ils seront au grand maximum entre 100 et 150 hommes pour protéger cette caravane alors qu'en face ils sont 300, ils décarpissent et ils laissent tout le butin, toute la caravane commerciale, il faut vous imaginer, les gens ont mis leurs richesses dedans pour se faire du bénéfice et ils laissent. Et donc c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et à ce moment-là, les Quraysh décident de précipiter la revanche de Uhud. Et donc ils vont envoyer leur armée pour la bataille de Uhud. Et donc c'était à peu près là où on est arrivé, même si on avait déjà fait de grandes étapes dans la bataille de Uhud, on est arrivé au milieu de la bataille de Uhud, on reprendra là où on s'était arrêté avant la pause estivale la semaine prochaine, bismillah tabaraka wa ta'ala. Et la semaine prochaine il me semble qu'il y a le changement d'heure, donc si c'est bien le cas on débutera le dars juste après l'Aïcha, inshallah, et non pas entre le Maghreb et l'Aïcha. Barakallahu fikoum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.
Allahu akbar.